Tendance à me plaire.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Tendance à me plaire, épisode 4 de la 12e saison. Vous nous écoutez sur Radio G, sur Fréquence Zik ou bien en podcast. Et aujourd'hui, le thème de l'émission, ce sont les phénomènes paranormaux et la peur à l'occasion d'Halloween. On vous promet donc du suspense, des surprises et des frissons, notamment avec notre invité Jonathan Dyer, que nous aurons tout à l'heure au téléphone. Il est réalisateur de la série documentaire The Believers, Expérience vers l'inconnu. Je vous propose tout de suite de vous mettre dans l'ambiance avec des extraits de la bande-annonce.
Et Jonathan, depuis la séance du Spirit Box, qui nous parle pratiquement plus, qui part tout seul, qu'on doit lui courir après.
Bon, je coupe la caméra, Cindy se sent pas bien.
Soso, ça va? Je te sens déjà frissonner là. Quelle actrice!
Ah non, mais moi, j'ai trop hâte d'entendre quand même cette interview parce que du coup, c'est vrai que ça a l'air impressionnant en tout cas. En tout cas, le reste de l'émission me fait également peur quand j'en lis le programme, Raphaël. Hein. Donc, Manu, toi, tu vas nous parler tout simplement de la
peur.
Eh bien, effectivement, hein, cette circonstance, semble-t-il, ce soir. Bonsoir, Olivier.
Bonsoir.
Bon, et bien.
Bonsoir.
Alors, toi, ce soir, tu vas nous parler des époux Warren, que je ne connais pas, mais voilà.
Tu ne connais pas les époux Warren?
Non, on va faire la connaissance.
Voilà. Je vais te les présenter.
Un petit couple sympathique.
C'est un feu, les Warren, parce qu'ils sont tous morts.
Ah, ils sont tous morts.
Ils sont morts tous les deux.
Bah, oui. Mais ça, c'est ma rubrique, normalement.
Et puis, on continuera ce soir avec Karine, qui sera avec nous par téléphone. Karine va nous proposer des infos intox, également autour du thème de l'horreur. Bonsoir, Karine.
Exactement, bonsoir tout le monde.
Et puis également, hein, mais rassurez-vous, moi je vais relever un peu le niveau avec peut-être un peu plus de légèreté, si on puis dire, avec le Soso Show. Un peu plus relax, peut-être pour détendre l'atmosphère.
Voilà, Soso, donc je pense que tu as oublié de mentionner un autre phénomène. Oups. Un moment où la peur règne plutôt sur nous, les chroniqueurs. Un moment que l'on redoute tous, celui de l'édito de Bruno.
J'ai un jingle spécial, ouais. Ah ouais, c'est flippant, hein, dis donc. Ouf.
C'est quoi, c'est un
Ah, c'est à moi. Bon, ben aujourd'hui, c'est la journée européenne de la dépression. Je crois que tout est dit. Bonne émission à vous. Non, mais en plus, c'est vrai. Hein.
Mais vous êtes dans Tempe. Hein,
c'est la journée. Voilà, c'est la journée européenne de la dépression. Sonia nous a envoyé l'info. Hein. Merci, Soso.
Ça me paraissait important de le noter.
Ben oui, bon, le positif, c'est que c'est européen uniquement. Hein. Donc ça veut dire que si on va aux États-Unis. Ouais, bon, ben d'accord. Quand ça veut pas, ça veut pas. Allez, donc ce soir, on va avoir peur, apparemment, le genre de peur que Raphaël a quand je démarre mon édito. Oui. Lui qui nous trouve de bons invités, toujours intéressants, a peur que je sois méchant. Moi,
toi,
méchant.
Vraiment. C'est exagéré.
D'ailleurs, si l'année dernière je présentais les invités, cette année il m'a éloigné d'eux en me demandant de faire un édito plus général. Bon, après, c'est vrai que le sujet du paranormal peut prêter à sourire. Hein. Ici, les avis sont partagés. Bon, on a Raphaël, là il n'y a pas d'ambiguïté. Hein. Il y croit dur comme fer et Sonia est pas loin derrière. Hein. Alors, Olivier, lui, il aime ça, mais au cinéma. Karine, alors ça dépend si c'est avant ou après l'apéro. Pierre-Benoît, il croit uniquement si ça fait des likes. Ah, Manu, par contre, est une fausse sceptique. Enfin, je veux dire qu'elle sent bien les choses. Enfin bon, bref, voilà.
Bravo. Merci, Bruno.
Et puis, il y a moi. Alors, je vais peut-être vous surprendre, mais oui, le paranormal existe. Bon, de toute façon, à partir du moment où on en parle, donc ça existe. Hein.
Ça.
Par contre, là où ça devient intéressant, c'est pourquoi ça existe. Le paranormal et la peur qu'il engendre existent, et c'est même grâce à ça que nous, espèces humaines, sommes encore vivants. Tu reviendras peut-être là-dessus tout à l'heure, Manu. La peur nous fait fuir les choses qui pourraient nous nuire, c'est donc vital. Et puis, le paranormal est aussi utile pour notre équilibre mental, car notre cerveau aime bien tout maîtriser, même s'il ne comprend pas. Il veut pouvoir ranger les choses dans les cases. Alors avant, il y avait la religion, ça c'était idéal, hein, la vie, la mort, la maladie, les événements climatiques. on y trouvait des explications ésotériques bien pratiques sans avoir regardé E égale M6. Et puis voilà, la religion a perdu petit à petit son combat contre la science. Les fantômes deviennent alors des interprétations de notre cerveau, les infrasons nous donnent des sueurs froides, les statistiques et la théorie des grands nombres créent nos rêves prémonitoires, les gestes inconscients font tourner les tables et nous donnent une écriture automatique. Mais tout le monde n'a pas l'âme d'un Jamy dans C'est pas sorcier. Alors il est souvent plus simple et plus fun de mettre l'inexpliqué dans la case paranormal. Vous avez peur de l'avenir ? Mais pas de problème, on sort les cartes et l'horoscope. Et même si aucun voyant du monde n'avait prévu la pandémie, eh bien on continue à leur demander si on va trouver l'amour. Et ce besoin de croire à l'incroyable est très puissant. Même quand on prouve qu'un événement est somme toute banal et inexplicable, eh bien on croit toujours à sa version paranormale. Tiens, dans les grandes peurs d'Olivier, on a Amityville, la maison du diable, par exemple. Même si le meurtrier a avoué avoir tout inventé avec son avocat pour passer pour un innocent. Même si la maison héberge aujourd'hui une famille depuis longtemps et que rien ne se passe d'étrange. Eh bien, il continue à avoir peur de cette maison.
Ah, d'ailleurs, je vais en parler.
Dans le genre angoisse, il y a aussi celle de Raphaël.
Ouais.
Qui entendait des bruits horribles dans le studio.
Ah bon ?
Jusqu'au jour où il s'est rendu compte que c'était juste Sonia qui chantait, en fait. Et même en le sachant, il a toujours peur. Et nous aussi, on a peur qu'elle rechante.
Oh, c'est pas gentil.
Nous générons aussi du paranormal en changeant nos habitudes. Imaginez un apéro sans alcool chez Karine. Hein ? On penserait tout de suite à une possession, une maladie. Ça, c'est du paranormal. Par contre, Manu, qui nous parle de clitoris et d'anus à 19h, tout le monde trouve ça normal. Voilà. Comme quoi, tout dépend de la perception de chacun. Hein. En tout cas, le paranormal permet de mieux nous comprendre, de mieux appréhender le fonctionnement de notre cerveau et de l'inconscient. Et rien que pour ça, oui, le paranormal est important. Donc, comme dans tout spectacle de magie, il est inutile de chercher à toujours vouloir tout comprendre. Le paranormal fait partie de notre vie et nous est indispensable. Alors qu'importe si tout est bidon, que notre naïveté amuse des sceptiques, amusons-nous avec nos peurs et surtout prenons plaisir à voir celle de Raphaël. Bonne émission les loulous-garous.
Merci Bruno, mon petit Bruno, rien qu'à moi. Hein, ça faisait longtemps ça, que j'avais pas fait ça. Alors, donc, vous allez pouvoir réagir à cet édito et autres chroniques hein, sur nos fameux comptes Facebook, Twitter et Instagram que je gère moi-même. Hein, c'est moi qui mets toutes les infos. Et Lara s'est dit, oh, quelle horreur.
Oui, voilà, c'est ça.
Alors, ce soir, effectivement, vous avez compris, on parle d'horreur et on va continuer à frissonner avec notre invité du jour présenté par Raphaël.
C'est l'heure de l'invité.
Alors aujourd'hui, nous allons parler de phénomènes étranges et paranormaux avec Jonathan Dyer, un spécialiste et passionné de cet univers, à tel point qu'il se définit lui-même et avec sa compagne Sandy Lactar comme enquêteur de phénomènes paranormaux. Alors tous les deux, ils voyagent et visitent des lieux réputés hantés ou habités peut-être par des âmes errantes qui rôdent dans des châteaux, des prisons, des hôpitaux désinfectés. Ils filment leurs expériences que vous pouvez suivre et découvrir dans leur série documentaire The Believers, expérience vers l'inconnu. Alors Jonathan Dyer, bonjour.
Alors, bonsoir.
Bonsoir. Alors Jonathan, il y a quelques perturbations
ouais,
dans le studio.
Pas de vous, hein. C'est juste que de l'extérieur,
on
nous envoie des choses.
On a phénomène paranormal qui se passe dans le studio.
Il y a voilà. Quelques petites vous, hein. Surprises tout à coup. Donc Jonathan, vous êtes le réalisateur de cette série qui compte 3 saisons désormais. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, cette aventure a commencé un soir de Chandler. Racontez-nous ça, Jonathan.
Ok, bon, je l'ai dit 3 milliards de fois, mais oui, un soir de Chandler, ma compagne et moi, on a vu devant nous un pot de confiture traverser la pièce, et c'est fait partie des premiers événements qui nous a fait donner envie de nous poser des questions.
Donc en fait, vous mettez du rhum dans les crêpes, c'est ça? Beaucoup de rhum.
Alors, je vais être très honnête, toutes les blagues sur les crêpes et les fantômes, je les ai déjà eues. Ça y est, je suis blindé, donc le pauvre bonne maman, tout ça, ça y est. J'ai...
Blasé, ouais. Jonathan.
Jamais ne suis blasé.
Non, alors, j'ai peur de rien.
Donc, tous les deux, vous avez décidé de partir enquêter dans des lieux dits hantés. On va écouter un extrait de votre série The Believers, l'épisode 7 de la 2e saison. Vous visitez le domaine de l'abbé Saunière et vous essayez justement de rentrer en contact avec lui. Alors, imaginez Sandy errer dans des couloirs et escaliers en pierre du domaine. Elle est filmée avec une caméra infrarouge et elle essaie de rentrer en communication avec l'abbé.
Bonjour, messieurs, dames. C'est Sandy et Jonathan de The Believers. Si vous nous entendez et que vous voulez communiquer avec nous, ce soir, ce sera la parfaite soirée pour le faire. Si vous avez un message à nous faire passer... C'est lourd, là.
Ouais, tu sens une différence comparée à...
Ouais. Ouais.
Voilà, donc déjà l'ambiance d'un épisode de la série The Believers. Alors, vous avez visité, Jonathan, plusieurs endroits aux noms intrigants, hein, comme le château hanté de Fougeray, le musée de Sunderland, la prison de Jedburgh, l'hôpital de Newsham Park. Alors, comment une enquête se déroule ? Comment ça se prépare tout ça, Jonathan ? Racontez-nous un peu les coulisses.
Pour trouver des lieux, c'est Sandy qui s'en occupe avant tout, et l'idée, bah, c'est d'ouvrir des livres d'histoire et puis de regarder le vécu des lieux. Il n'y a pas forcément besoin de chercher un lieu où il y aurait eu des morts ou ainsi de suite. Il y a juste besoin de trouver un lieu qui a plusieurs couches de vie, que ce soit 100 ans, 200 ans, 300 ans, etc. Après, nous, avec The Believers, on a fait la spécialité d'enquêter dans des lieux dits historiques. Mm-hmm. Donc on se focus sur tout ce qui est château, fort... ancienne citadelle, etc. Mm-hmm. Parce qu'on avait une vraie passion de l'histoire avant de se plonger dans le parlement. On était déjà passionné par l'histoire, par le patrimoine.
Ça a une part importante, hein, finalement, dans la série, l'histoire, quand même.
Complètement. Bah, en moyenne, les épisodes font 52 minutes, et on va dire que les 20-25 premières minutes sont consacrées, voilà, à l'histoire du lieu. Et après, c'est nous qui nous plongeons de nuit dans le lieu, quoi.
De nuit, ouais. Alors, est-ce que vous pouvez me parler d'une expérience qui vous a marqué plus particulièrement ?
C'est compliqué sur autant d'enquêtes. Il y en a eu plein. J'essaye de me remémorer, mais je sais que je peux. Voilà, en lieu qui a été surtout marquant. Il y a eu l'hôpital de Newsham Park qui est dans la première saison. Mmh. C'est un ancien hôpital psychiatrique qui avait servi d'orphelinat un petit peu avant, qui se trouve à Liverpool. Mmh. Et qui, dans ses dernières années avant de fermer, était spécialisé sur les serial killers qui étaient trop dangereux pour la prison, donc du coup il les mettait là-dedans. Mmh. Et ça a fermé dans les années 80 si je me trompe pas, et ça c'est un lieu où il s'est passé énormément de choses qui étaient vraiment très impressionnants. Mm-hmm. On a été presque confinés 24 heures dedans, enfin confinés. Mm-hmm. J'utilise des mots de Covid maintenant, mais
c'est
enfermés.
C'est le mot qu'il faut utiliser
ce soir, s'il vous plaît.
Mais pourquoi?
Mais enfermés, ouais, dedans pendant pratiquement 24 heures, et ouais, c'était vraiment très impressionnant.
Pourquoi enfermés pendant 24 heures?
Alors, une question de la part de Manuela, pourquoi enfermés pendant 24 heures? Pourquoi ce choix?
Alors ça, c'était très particulier avec ce lieu, c'est que c'est un lieu qui est en plein centre-ville, et du coup le propriétaire demandait qu'à partir du moment où on reste dans le lieu, mmh, on n'en sort pas jusqu'au petit matin. Donc on est arrivé à 9h du matin et on est reparti le lendemain à 6h du matin.
D'accord.
Et du coup ils nous avaient enfermés, donc on avait même eu le livreur de pizza qui était venu nous donner la pizza entre les barreaux. Donc ça, c'était très atypique, hein. C'était extrêmement rare. Mais c'était le côté très atypique de ce lieu-là où on a dû vraiment s'immerger pendant pratiquement 24 heures à être enfermé dans un ancien hôpital psychiatrique, quoi.
D'accord. Et alors, si par exemple vous rentrez en communication avec quelque chose, comment ça se manifeste, mm-hmm, généralement quand vous êtes en contact? Quelles émotions ressentez-vous?
Bah, nous déjà, on a un appareil qu'on utilise beaucoup qui s'appelle la Spirit Box.
Ouais.
C'est un appareil qui utilise la technologie de la radio. Mm-hmm. Et l'idée, c'est qu'une conscience, forcément, elle a plus de corps physique, donc il faut qu'elle ait bien quelque chose pour poser sa voix. Mm-hmm. Donc du coup, on utilise les ondes, que ce soit les ondes FM ou AM. Et du coup, il y a un appareil qui s'appelle la Spirit Box, mm-hmm, et qui permet de communiquer avec eux en temps réel.
D'accord. Et du coup,
voilà, c'est quand on l'allume et puis. Mm-hmm. Et puis on attend qu'il nous parle, quoi.
Ouais. Vous utilisez des baguettes en laiton également, j'ai vu ça.
Ouais, les baguettes en laiton. Bon, ça c'est un peu plus difficile parce que forcément les réponses sont limitées. Ça passe forcément par que un oui, un non. Ça nous permet aussi de nous guider. Mmh. On leur demande souvent est-ce que vous pouvez nous guider dans telle ou telle pièce. Donc ça c'est intéressant, les baguettes en laiton. C'est quelque chose que même durant l'Égypte, ils utilisaient. Mm-hmm. C'est vraiment remonter aux sources de comment communiquer avec une conscience. Donc ça, ça fait partie des. Il y a aussi le pendule qui est très bien pour calculer le taux vibratoire d'une pièce. Il y a plein d'appareils comme ça.
Et est-ce qu'il y a des rituels avant justement d'entrer en communication avec des âmes, par exemple? Parce que là, on entend dans l'extrait tout à l'heure, en fait, Sandy, elle se présente finalement aux personnes qui vivaient là.
Bah oui, parce que l'idée, c'est de se rappeler qu'une conscience, au final, c'était quelqu'un qui était vivant avant. Mm-hmm. Donc, il faut s'adresser comme on parlerait à n'importe qui aujourd'hui de vivant. Mm-hmm. Donc, et nous, c'est notre démarche, notre déontologie de présenter ce que l'on fait, de présenter ce que l'on va faire, nos expériences, ainsi de suite, pour faire comprendre aux consciences du lieu, s'il y en a, la démarche à suivre et pourquoi ça serait intéressant pour eux de participer.
D'accord. Alors, les chroniqueurs sont toujours perturbés hein, par des surprises en plateau, hein, puisque effectivement, il y a quelques petites surprises que je leur ai réservées.
On écoute quand même.
Voilà, ils sont concentrés. Alors, les images, en fait, moi, j'étais assez bluffé par les images de votre série, elles sont assez sublimes. La réalisation est professionnelle. Les musiques, les voix posées, c'est un travail vraiment de qualité, assez fin. Alors, c'est vous qui réalisez tout ça, du tournage au montage?
Ouais, c'est un peu le défi qu'on s'est donné avec Sandy, c'est de réussir à faire cette série documentaire à deux. Mm-hmm. Voilà, on est juste deux, donc Sandy s'occupe de la partie qui est pré-production, donc ça veut dire trouver le lieu, toute la participation à trouver l'histoire du lieu, à trouver les intervenants, etc. Et moi, je m'occupe de la réalisation, de la technique, et ensuite après de la partie post-production, donc ça veut dire le montage, le mixage, etc. Mm-hmm.
Et alors, qu'est-ce qui vous passionne tant finalement dans ce travail? Puisque ça fait quand même plus de 6 ans que vous vivez de ça aussi, hein?
C'est ça. Bon, après, c'est pas 100% de notre vie, mais ouais. C'est en tout cas une belle majorité.
On va en parler.
Et c'est surtout d'essayer de. Il y a beaucoup de gens qui en souffrent de tout ça. Il y a beaucoup de gens en France, ou de toute façon à travers même le monde, mais qui vivent des phénomènes et qui n'ont pas forcément d'explication. Et nous, on essaye de trouver un rapport à la science avec tout ça.
Ouais.
Essayer de décrocher le paranormal de la religion, parce que la religion, malheureusement, n'amène pas de vraie explication, ou va plutôt nous enfermer dans de la superstition. Et du coup, nous, on essaye d'avoir cette démarche réussir à connecter tout ça avec la science. Et ce qui est passionnant, c'est que après presque 7 ans d'enquête, on a dû faire une bonne cinquantaine d'enquêtes aujourd'hui. C'est que de plus en plus, on trouve de plus en plus de phénomènes. Il y a des phénomènes qui sont de plus en plus puissants. Et en plus, la science derrière évolue tout ça, que ce soit la physique quantique, etc. Tout est en train de se rapprocher et on se rend compte que voilà, d'ici quelques années, on pourra prouver que la survivance de l'âme, c'est bien une vérité.
D'accord. Et je reviens en fait à des choses qui se passent dans vos enquêtes. On voit souvent le miroir, en fait, par exemple, c'est quelque chose que vous utilisez qui fonctionne assez bien finalement. Et pourquoi?
Alors là-dessus, on n'a aucune idée. Honnêtement, c'est pas forcément un appareil qu'on utilise, mais on a remarqué que dans certains lieux, on a un phénomène qu'on appelle le phénomène des sphères lumineuses. Mm-hmm. Je rappelle que ça n'a rien à voir avec les orbes, si au cas où ça disait quelque chose à quelqu'un, mais ça n'a rien à voir avec les orbes. C'est vraiment des sphères lumineuses qui sont dotées d'une conscience, d'une intelligence. Et c'est vrai qu'on a remarqué que très souvent, dans des lieux avec bien 200-300 ans d'histoire, ces sphères lumineuses sortaient des miroirs. J'en ai aucune idée du pourquoi, du comment, de tout ça. Mais en tout cas, c'est un phénomène qu'on a enregistré plusieurs fois à nos caméras. Ouais.
D'accord. Alors, est-ce que vous avez des prochaines enquêtes là en cours que vous allez mener? Comment, qu'est-ce qui va se passer là?
L'actu, c'est que là, on a fait une enquête il y a 2 semaines près de Nantes. Mmh. On a fait un énorme château près de Nantes.
Ouais.
Là, c'est pour, la plateforme INRES TV. Qui est un organisme scientifique autour de tout ça. Donc là, on a fait ça pour eux. Là, comme vous disiez, la saison 3 est finie, donc on est en train de se préparer à la saison 4. On aurait déjà dû commencer à tourner un petit peu, mais forcément le Covid a un peu compliqué tout ça.
Ouais.
Donc on espère pouvoir potentiellement repartir peut-être courant mars pour cette saison 4.
D'accord.
Donc voilà. On lâche rien, on est toujours aussi passionné, toujours aussi motivé. Et là, voilà, on est en train de préparer, de chercher les lieux pour notre saison 4.
Bon, est-ce que les fantômes, ils pensent bien à mettre leur masque?
Bonne question.
Non, je pense qu'ils ont cette grande chance d'être libres de tout ça.
Alors, votre compagne Jonathan est Sandy Lactard et depuis quelques temps sur Angers, au 2 impasse Saint-Julien, on peut la rencontrer dans sa boutique spécialisée, l'Esprit du Chaudron. Alors, c'est quoi le concept de sa boutique?
Bah, l'Esprit du Chaudron, si en fait, nous, voilà, ça fait 7 ans qu'on fait The Believers, mais avant tout, The Believers, c'est une série documentaire qui passe à la télé, qui passe sur Internet, et du coup, on avait envie d'avoir quelque chose de vrai où on pouvait rencontrer les gens. Et du coup, on a pensé à créer un petit espace, un espace où les gens peuvent venir nous parler, nous poser des questions, où on peut les aider. Un espace où les gens, si par exemple ils sentent qu'ils ont besoin de recycler les énergies chez eux, ils peuvent acheter de la sauge, etc. Donc c'est un espace dédié autour du paranormal et c'est très varié. Il peut avoir plein de choses pour se protéger soi-même, pour protéger sa maison, mais il peut aussi tout simplement, on peut tout simplement acheter une petite tasse avec un logo de sorcière dessus. C'est voilà, il y a des choses sur la déco, il y a des choses pour se protéger, il y a du matériel d'enquête paranormale aussi. Mm-hmm. C'est vraiment une boutique tout autour du paranormal avec des choses plus sérieuses et des choses toutes simples comme des objets de déco quoi.
D'accord. Alors vous avez deux questions les filles, Sonia, oui, qui est terrifiée par des choses qui se passent encore dans le...
Et justement non, c'était l'origine de ma question, c'est est-ce que justement vous avez peur ou ça vous arrivait d'avoir peur voilà.
Oui, forcément déjà les premières enquêtes c'était assez difficile à vivre on va dire. Mais après, en fait, on se rend compte que le paranormal, c'est avant tout bénéfique. Mmh. Qu'à partir du moment où on arrive à... En fait, au bout d'un moment, le paranormal devient normal. Mmh. Ouais. Donc, du coup, on commence à ne plus avoir peur. Et au contraire, dès qu'il se passe quelque chose, il y a plutôt l'excitation de se dire « Ah, on vient de passer un nouveau stade. » Donc, moi, j'invite vraiment les gens à surtout ne pas avoir peur de ça. Je sais que ça peut avoir peur et l'inconnu de toute façon fait toujours peur hein. Si vous voulez chez un garagiste et que vous ne connaissez pas, ça peut toujours faire flipper. Donc dans n'importe quel corps de métier,
c'est vrai.
Ce qu'on ne connaît pas peut faire peur, mais quand on commence à vraiment se plonger dans le paranormal et surtout sur le côté spirituel des choses, on se rend compte que ça apporte plein de belles choses dans la vie. Donc mais voilà, c'est certain qu'on a fait certains lieux comme j'ai cité l'hôpital de Lucien Park. C'est vraiment super flippant, mais au quotidien, c'est pas quelque chose qui fait peur.
Très bien, bah écoute, Jonathan. Alors, Sandy a également sorti un livre, Ma rencontre avec le monde invisible.
Oui, c'est un livre en fait qui retrace comment The Believers s'est créé et à peu près les 3-4 premières années de notre plongée dans cet univers. Quoi.
Et puis on la voit aussi témoigner dans des émissions spéciales, notamment sur C8 dernièrement, il me semble, Sandy.
Oui, sur C8 dans Enquête Paranormale, qui passe tous les vendredis soirs.
Et puis
il y a des inédits d'ailleurs.
Et puis on la rencontre dans la petite boutique très très jolie d'ailleurs que je vous invite aussi à découvrir, hein, l'Esprit du Chaudron. Alors une dernière question de Jonathan, de la part de Manu.
Je voulais simplement savoir, est-ce que vous avez résolu le problème du pot de confiture qui a volé à travers la pièce?
Alors malheureusement, je suis désolé, j'ai pas du tout entendu la blague.
Alors elle se demande si vous avez résolu le mystère du pot de confiture qui a traversé votre pièce.
Bah, je vois que tout ça vous fait bien marrer, mais écoutez,
mais non, mais moi ça m'intrigue.
Ça intrigue beaucoup, Manu.
Oui, non, mais c'est pour nous en fait, au moment où tout ça est arrivé, je suis désolé, je vais un peu casser l'ambiance, mais au moment où tout ça est arrivé, en fait, Sandy venait de perdre sa meilleure amie. Mmh. Et nous, on se posait des questions sur. On cherchait déjà quel type de documentaire on allait faire, parce qu'on avait déjà fait des documentaires. On se posait la question du prochain thème. Et tout ça est arrivé que Sandy a perdu sa meilleure amie. Et du coup, forcément, elle s'est posé un peu des questions sur ce qu'on savait de l'après-vie. Et en fait, c'est une semaine après ça, une semaine ou deux, pas plus, on a commencé à avoir des premiers phénomènes de poltergeist, dont le pot de confiture. Et pour nous, après, bien sûr, c'est une façon d'interpréter les choses. Mais pour nous, on a senti ça comme une confirmation de « bah allez-y ». D'accord. Allez-y les gars, foncez faire votre expérience quoi.
D'accord. Bon. Merci,
en tout cas, j'invite vraiment les personnes à découvrir votre univers. Hein. Vous avez également une chaîne YouTube, hein, The Believers.
Et on peut le voir.
Hein. Également... Alors, oui, on a juste à préciser qu'on a une chaîne YouTube où on peut voir les bandes annonces, mais on n'est pas YouTubeur. Hein. The Believers, c'est une série documentaire qui passe sur Canal Sat, etc.
Sur Planète Plus et vidéo à la Vimeo à la demande également.
Quelqu'un comme moi peut pas voir, c'est ça.
Et puis également, vous êtes présent sur les réseaux sociaux. Merci Jonathan, en tout cas.
Mais merci à vous pour votre invitation.
Comment ? Eh bien, à bientôt, Jonathan. Et en tout cas, on va continuer de vous suivre. Ciao.
Merci, ciao.
Merci. Alors, restez avec nous puisque dans la suite de l'émission, on va retrouver Manu avec sa rubrique bien-être et santé, n'est-ce pas ? Et on parlera également, Bruno, de « C'était mieux après ». Eh bien oui, c'est possible.
Il y a des choses qui volent dans le studio. Mais c'est terrible.
Qu'est-ce que vous avez eu comme surprise là ?
Je sais pas, il y a
des phénomènes paranormaux dans le studio vaudou, ce soir.
Il y a des choses bizarres.
Il y a des choses qui volent.
Voilà.
Il y a des
rats. Ça vole de partout. Il y a des poltergeists. Et puis on retrouvera également Olivier qui nous parlera des époux Warren. Mais pour l'heure, on retrouve tout de suite les infos intox de Karine.
When we call to see
Elle va adorer son jingle, Karine.
Allô, bonsoir.
Est-ce que tu aimes ton jingle, Karine?
Alors, le paranormal amène l'être humain à une imagination débordante et infinie. Ce sera donc à vous de démêler le vrai du faux. Okay. Alors, c'est parti. Le vent du diable, un phénomène local de Strasbourg, pas très local. On sent des courants d'air qui sont peut-être l'œuvre du diable. L'origine du vent qui souffle sans cesse place de la cathédrale, le diable est resté enfermé dans l'édifice et le vent présenté comme sa monture, donc son cheval, l'attend impatiemment sur le parvis. Est-ce vrai ou faux ?
Oh bah c'est plausible. Enfin, c'est possible qu'il y ait un courant d'air suspect sur la place. Oui, ce serait possible.
Moi, j'y crois à fond de toute façon.
Ouais, ce serait possible. Que ce soit le diable, je ne suis pas sûr, hein, mais il peut y avoir ce genre de.
Mais la question, Bruno, c'est le diable.
Je vais te dire non à chaque fois, moi, c'est pas drôle. Ok.
Tu sors.
Je sors.
Eh bien, en fait, c'est à vous de voir.
Oui.
Je n'aurai pas la réponse.
D'accord.
Non, je ne suis pas équipé avec tous ces outils.
Mais ça existe, cette histoire existe.
Cette histoire existe. D'accord. Après, est-ce qu'elle est vraie ou pas, je ne sais pas.
Ouais, okay.
En parlant de cathédrale, je vous emmène dans un opéra. Dormir sur une scène d'opéra dans un vrai lit à deux pour une nuit avec la personne de son choix.
Wow. Oui, j'ai entendu parler de ça il n'y a pas longtemps. Ah.
Mais un opéra où il se passe hanté, enfin.
Non, un opéra tout simple.
Ouais, enfin, ça doit être flippant.
Alors,
tout
il est
seul,
peut-être hanté, ça on ne sait pas. Il faut passer la nuit pour le voir.
Oui.
Eh bien, Sonia, tu as raison, c'est vrai. C'était en fait le 21 octobre dernier. Ça a été lancé par un jeu concours à Lille. Donc, c'est l'opéra de Lille. Et ils ont prévu de faire trois autres lieux emblématiques pour cette année. Donc, en fait, concrètement, celui qui gagne, il a un lit sur la scène principale. Il passe une nuit dans l'opéra.
Oh la vache, ça va être bizarre.
Ouais, c'est
et là, t'as belle figure.
Ça doit être assez étrange, ouais.
Madame Butterfly.
Alors, des. Autre info, des cercueils en carton 100% recyclables et personnalisables,
dans
lesquels on peut intégrer des photos personnelles.
Ah, je ne sais pas si ça va jusque-là, mais en tout cas, oui, en carton, j'ai entendu parler aussi. Des photos personnelles. Oh, mais quelle idée.
Un cercueil en carton.
Oui, type des photos de soi, du défunt ou de ce qu'il aimait.
Pourquoi pas.
Moi, je dis non. C'est vachement réglementé, les cercueils.
Bah oui, mais c'est bien, si biodégradable, c'est mieux.
Donc Sonia dit non, les gars vous dites oui.
Moi je dis oui.
Manu ?
Oui.
Manu, les cercueils en carton ?
Oui, moi je pense que oui.
Pour l'incinération, c'est mieux ?
Je pense.
Et ben en fait c'est vrai, c'est vrai. Donc comme tu dis Sonia, c'est très réglementé, ça a mis des années et ça s'appelle c'est la société AB Création, donc qui est spécialisée dans le funéraire vert, donc la partie écolo, vous l'aurez compris. Et en fait c'est constitué uniquement de papier recyclé, donc qui viennent d'Alsace. Le cercueil en carton, en fait, peut se dégrader en cas d'inhumation en une année contre 15 pour un cercueil en bois. Il faut savoir quand même que chaque année, il y a près de 11 millions d'arbres sains qui sont coupés. Ça représente à peu près 30 000 km² de forêt.
D'accord.
Pour produire des cercueils.
Bah, surtout pour la crémation, je trouve ça ridicule.
Et donc, sachant qu'on ne sait pas toujours d'où vient l'origine du bois des cercueils. Et donc, les crématoriums aujourd'hui sont obligés d'accepter les cercueils en carton.
Oui, mais très bien. Ça, c'est bien.
Donc, c'est deux fois moins cher.
Bon,
et en plus, en effet, c'est personnalisable complètement. Donc, ça peut être coloré ou on peut mettre les photos du défunt si tu es un passionné de rugby ou d'amateur de voile. Ou
mais à l'extérieur parce qu'à l'intérieur, ça va pas servir à grand-chose.
Bien sûr.
Donc, à l'extérieur,
je pense qu'il verrait. Voilà, c'est ça. Alors, attention, un phénomène ultra paranormal, inexpliqué. Vous connaissez Toy Story ?
Oui.
C'est quoi ?
Imaginez un monde où les jouets prennent vie.
Oui.
Oula.
Vrai ou faux ?
Dans dans ton imagination.
Alors, il y a peut-être un parc. Non, il y a peut-être un parc qui existe.
Ah oui, peut-être.
Peut-être, hein, où on est plongé dans Toy Story.
Non, mais prends vie. Enfin,
moi, je crois tout ce qu'elle dit.
Comme dans Toy Story.
Ouais, moi, je crois tout ce qu'elle dit. Alors, je dis oui.
Ah, moi, je dis non.
Eh bien, vous avez tort. C'est vrai. En fait, comme l'un de vous l'a dit, c'est grâce à la réalité augmentée. Et ce sont les Kinder Surprise.
Ah, bah c'est bien, c'est Pâques.
Et oui, ils ont lancé leur application qui s'appelle Appleidu. Alors, je ne pense pas le prononcer très bien. Et en fait, ça permet de donner vie aux figurines. Donc, c'est une application qui va combiner la réalité augmentée et le contenu ludo-éducatif.
Oh, okay.
En fait, c'est très simple. C'est des enfants de 4 à 9 ans qui vont pouvoir créer leur propre avatar et s'aventurer donc dans ce monde virtuel peuplé de défis. Et ce qui est assez amusant en parallèle, c'est qu'en fait, les dernières collections donc, de jouets des Kinder sont compatibles avec l'appli où l'enfant a juste à pointer l'objectif photo de son téléphone vers les jouets qui sont contenus dans les œufs. Et une fois montés, ils vont alors prendre vie sur la table du salon ou la chambre de l'enfant et ils vont pouvoir les intégrer également dans le jeu mobile pour suivre l'avatar de l'enfant dans les aventures. Mmh. Donc en effet, ça revient exactement à ça. C'est comme un dessin animé qu'on a créé soi-même en fait.
Mmh. D'accord.
Ok. Un petit dernier peut-être, parce que là on est à 30.
Oui, alors attention, âme sensible, sait se tenir. Un deux roues qui a pour seul carburant les excréments.
Ah. Un quoi?
Un deux roues. Seul carburant des excréments.
Bah, c'est écolo.
Oui, je pense.
Allez,
c'est vrai. Exactement, Raph. C'est vrai. En fait, ça s'appelle la popo-cyclette.
C'est mignon.
En fait. Je vous explique vite fait. Donc, c'est un Japonais qui fabriquait des toilettes et qui a inventé ce modèle de moto qui fonctionne avec un carburant donc gratuit et inépuisable pour le coup. Donc, les excréments, c'est du biogaz utilisé par le véhicule qui provient de déjections animales et de boues d'épuration.
Ça va plus.
Et tenez-vous bien, l'inventeur a été jusqu'au bout. Hein. Il a remplacé la selle traditionnelle de sa popo-cyclette par un véritable siège de toilette et à l'arrière du véhicule, un énorme réservoir surmonté pour la décoration d'un tout aussi énorme qu'un rouleau de papier toilette. Mais attention, cette motocrotte, tenez-vous bien, cette motocrotte
peut avoir
une autonomie de 300 km.
Oui, alors ça, par contre, je te crois pas, Karine.
Mais, si, c'est vrai. Mais par contre, c'est un prototype qui sera jamais commercialisé. Ouais. C'est pour montrer les déplacements, les conseils des déplacements écolos.
Bon.
Alors, une dernière chose.
Rapidement.
Ouais, ok. Alors, j'ai recensé une information. Dans le Maine-et-Loire, c'est le département qui a recensé le plus de faits paranormaux résolus.
Ah.
D'accord.
Vrai ou faux?
Vrai.
Vrai.
Bon, elle est vraie, on va dire.
J'en sais rien.
C'est
En fait, faux, totalement faux.
Ah. D'accord. Ok.
Peut-être que c'est vrai, mais je ne sais pas encore.
On posera la question à Jonathan.
Voilà, exactement. Quand je vous disais que l'être humain est une espèce paranormale à elle seule, la preuve.
Voilà. En tout cas, merci hein, Karine. Alors, merci beaucoup Karine. Ne soyez pas surpris par les cris de Sonia ou d'autres chroniqueurs, puisque en fait, on nous balance comme ça des têtes de rats morts. Des masques.
C'est horrible.
Donc,
des
mains ensanglantées. On vous enverra les photos sur les réseaux sociaux, ce qui contribue à l'atmosphère un petit peu bizarre ce soir. On va détendre un petit peu l'atmosphère. Avec Sonia,
je suis pas bien
positionnée,
je vois tout ce qui se passe.
Elle a très très peur. Attention, Soso, c'est parti pour ton Soso show.
Bon, c'est ton jingle apparemment, hein, voilà.
Ça marche. Excusez-moi. Alors, bonsoir à tous. Heureuse de vous retrouver pour cette soirée spéciale paranormale, soirée de la peur. Je tremble de partout. Alors ce soir, vous l'aurez compris, le Soso Show sera terrifiant.
Alors que en ce moment même dans le plateau, dans le studio, Caroline déguisée, c'est elle qui nous a balancé les petites surprises avec un tablier noir horrible. Soso, t'écoute, pardon.
Excusez-moi. Alors ce soir, promis, juré, je serai sans pitié et intraitable avec les chroniqueurs et avec vous-même. Alors, si vous vous en sentez capable, vous allez devoir retrouver à l'aide d'indices musicaux les actualités ou informations qui ont retenu mon attention ces dernières semaines. Alors attention, tout le monde est prêt? Tremblez!
Le Soso Show.
Les huîtres de ma reine. Les huîtres sous-marine.
Nous y aurons les potirons, on rigolera pour pas un rond.
Tu crées non.
So show.
Je sais pas.
Alors il y a deux actus en une, oh. Comme d'habitude, vous avez l'habitude.
Alors, hein.
Déjà une, on trouve
alors,
pas.
Ça parlait. Alors,
on a gagné quelque chose.
Ça
de
parlait
de la reine.
De champion.
Voilà.
Voilà.
Champion du monde.
Et pour pas un rond. Non,
ça parlait d'huîtres, de potiron. Ben oui, je crois que c'était le moment, la séquence émotion. Ah. Alors bon, je vois que vous n'avez pas l'info, ouais, donc là, je me lance tout de suite. Donc l'une des plus grosses huîtres du monde a été découverte en Bretagne.
Ça fait 22 kilos.
Non, oh non.
22 kilos, oh, Manu.
Avec deux grosses perles.
Voilà, oh. C'est ça. Alors, amis aux amateurs d'huîtres, à Carantec, dans le Finistère, le fils d'un ostréiculteur a pêché une huître géante samedi dernier dans un parc dans la rivière de Panzé. Alors, d'après le professionnel de la pêche, elle serait tombée d'une poche à Nessin il y a une vingtaine d'années quand même.
Ah oui,
alors, les paris sont ouverts. Est-ce que vous avez une petite idée du poids de la bête?
250 grammes.
Ah oui. Non, elle est bien plus
un
énorme.
Un kilo?
Un kilo, ouais. Non,
un kilo.
Deux kilos?
Karine,
kilos,
peut-être, une suggestion?
Deux kilos de Manu. Oh. Emballé, c'est pesé, oh, effectivement. Alors, si maintenant on parlait des mensurations du mollusque, je vous écoute.
Alors, 20 centimètres, je dirais.
Ouais, 22 centimètres de longueur.
Ouais.
Et 14 cm de largeur, voilà, et une épaisseur de 11 cm. Ça a l'air quand même énorme. Alors, ça peut rentrer, effectivement, semble-t-il, dans le Guinness Book des records, mais il y aurait une autre huître à peu près du même poids ou un peu plus haute qui aurait été trouvée il y a quelques temps déjà. Pour autant, cette huître, rassurez-vous, ne sera pas mangée, mais elle sera sûrement utilisée pour son pouvoir reproducteur. Hein, pour pouvoir résister au vent et marée pendant les décennies à venir. Et puis la deuxième actu, c'était également le plus gros potiron de France.
Eh ben.
Ah oui.
Alors on y va, une idée du poids?
Ah, c'est, oh, voilà, c'est en tonnes là.
Non, on n'est pas loin de la tonne.
Ouais, 800 kilos, oui. 900 kilos.
950.
Un peu moins.
850.
Allez, 768 kilos. Ah, c'est, et c'est un record. C'est un habitué de la fête de la citrouille en Vendée qui a battu ce singulier record début octobre. Il s'appelle Mehdi Dao et il avait déjà réussi des records. Le dernier, c'était 730 kilos. Donc, avec beaucoup d'amour, et il précise que ce sont que des produits naturels et bio, avec bien sûr de l'amour, de l'attention. Bien écoutez, hein, dans votre jardin, vous aussi, vous pouvez faire pousser un méga potiron. On y va pour la deuxième actu.
Le So-So Show.
C'était une fois dans un château hanté. Il était une fois dans un château hanté.
In het dorpje Maasee, het kasteel.
Le So-So Show.
Ah, c'était quoi? Je suis désolée, le dernier l'actu. Enfin, bon, j'ai pas dû bien mettre les bons.
Ah, c'est le nouveau concert de Mylène Farmer.
Ça, un truc qui fait peur.
Alors, ça parle de château.
De porte qui grince.
Ouais, mais vous n'allez pas forcément trouver l'info, donc je vais vous donner. Ah, je vous explique. Alors, pour l'occasion d'Halloween, hein, j'ai parcouru la toile pour trouver des idées de sortie. Pour Halloween, et mon attention s'est portée sur le château de Montgeoffroy, de mon enfance, hein, voilà, ne demandez pas pourquoi, et voilà. Donc, du 17 octobre au 1er novembre inclus, pour les accros du Fais-moi peur, il y en aura pour les grands et les petits des animations autour d'Halloween. Alors, pour les adultes, on va retrouver des murder parties et des chasses aux sorcières. Mm-hmm. Alors, la chasse aux sorcières se passe habituellement de nuit. Bon, vous l'aurez compris, avec le couvre-feu, bien, du coup, elle est maintenue, mais elle sera avancer. Donc, il faut compter pour la murder party à peu près 8,50 €. Je trouve ça pas cher. Ouais, et 5 € pour la chasse aux sorcières. Vous pouvez même prendre un pass, hein, pour le double effet qui se fire. Et puis pour les enfants également, vous avez des possibilités d'animation. Il y avait aussi tout ce qui était autour des décorations de citrouille. Et puis bien sûr, hein, venez déguiser.
Bien sûr.
Bien sûr.
Sinon, allez, on y va pour la troisième actu.
Le So-So Show.
J'ai demandé à la lune. J'ai demandé à la lune.
Blue Moon.
Alors, qui a entendu parler de cette actu?
Une histoire de loup.
Il y a des lunes.
La lune bleue ce week-end.
Bravo. Alors, une lune bleue spéciale pour Halloween. Alors, avis aux superstitieux, une rare 13e lune sera visible ce week-end, le 31 octobre, le soir d'Halloween. Je vous explique tout. Donc, cette nuit du 31 octobre, elle sera marquée cette année par une pleine lune, autrement dit, une ambiance idéale hein, pour faire trembler sorcières, momies, loups-garous.
Avant 21h.
Avant 21h. Alors, vous me direz, oui, mais alors, c'est quoi là qui est incroyable? Mais, ouais. Effectivement, vous savez tous que dans, sur le calendrier, on a 12 lunes. Hein, chaque lune pour chaque mois.
On a 12 lunes.
Cette année, on aura 13 lunes. Eh bien oui, cette 13e lune va s'appeler du coup la lune bleue. Elle ne sera pas bleue, mais c'est une lune spécifique. Donc samedi soir, ouvrez bien vos yeux. Il semblerait que vers 15h51, on puisse déjà l'apercevoir heure de Paris. Mais bon, à Angers, on n'est qu'à 1h30, donc... Peut-être qu'on pourra l'apercevoir dans ces heures-là. Moi, je trouve ça impressionnant. Enfin, ce qu'il faut savoir, que cette phase lunaire se fera sous le signe du taureau. En opposition, on verra le soleil sous le signe du scorpion. Alors, résultat, force, volonté et passion se feront ressentir, particulièrement dans le domaine amoureux.
Pour qui?
Alors, les célibataires, allez-y, foncez.
Ah, pour tout le monde, alors?
Bah, voilà, pour tout le monde.
On s'embarrasse même plus des signes, maintenant. C'est
alors,
pour
c'est
tout
quand
le monde.
Même assez D'accord. rare, parce que la lune, le soir d'Halloween, la lune bleue, c'est que tous les 19 ans. Hein, c'est assez exceptionnel quand même comme, comme phénomène. Donc si vous êtes intéressé par le sujet, n'hésitez pas à aller voir sur Internet, vous en saurez plus.
Merci Soso. Un petit mot, Caroline. Bonjour, un petit bonjour aux
c'est
auditeurs.
C'est plus mon prénom, moi, je viens
voilà.
plus, c'est plus mon prénom
Caro,
celui-là.
Caro,
je t'avais pas reconnu.
Donc il nous a réservé quelques surprises à l'antenne.
Ah oui.
T'as bien aimé, t'amuser toi.
Je me suis bien amusée, ouais.
T'as quoi sur la tête?
J'ai des chauves-souris, elles ont poussé là depuis une semaine, je les garde.
Un petit serre-tête. Merci en tout cas. Alors si vous venez de nous rejoindre ce soir, on parle d'horreur, hein, de phénomènes paranormaux notamment. On vous conseille vivement de réécouter l'émission depuis le début en podcast. Vous pourrez notamment réentendre l'interview de Jonathan Dyer qui nous a parlé de sa série The Believers, expérience vers l'inconnu, où avec sa compagne Sandy, ils enquêtent dans des lieux dits hantés. Allez, on continue de vous faire frissonner de plaisir avec la chronique ciné d'Olivier.
Ah oui, ça c'est quand on voit un film français.
Il y a des films d'horreur qui nous ont marqués, notamment ces dernières années. Il y a eu un remake d'Amityville, il y a aussi, eu aussi Conjuring, le 1, le 2 et le 3 qui va sortir l'an prochain. Et puis aussi Annabelle. Alors, est-ce que vous connaissez le point commun entre ces trois films d'horreur?
C'est des nanars.
Ils font peur.
Ils font peur. Et puis surtout, ils mettent en scène, ces trois films mettent en scène un couple qui s'appelle les époux Warren. Les époux Warren, c'est des gens qui ont vraiment existé. Hein. Monsieur Warren, Edward Warren, était démonologue. Et puis, Lorraine Warren, elle, était médium. En fait, ils interviennent dans les maisons hantées, dans les maisons où il y a des poltergeists, ils interviennent dans les familles où il y a un cas de possession, voilà, ou d'exorcisme. Ils ont vraiment existé. Ils ont créé en 1952 la New England Society for Psychic Research. Et ils ont commencé à enquêter sur des affaires pas comme les autres, à la recherche d'esprits maléfiques et d'autres manifestations paranormales. Alors, ils étaient très religieux et considéraient leur occupation comme un sacerdoce. Alors, ils sont célèbres pour deux cas. Donc, il y a un premier cas, c'est surtout Amityville. En fait, ils sont intervenus dans la maison d'Amityville. Alors, est-ce que vous connaissez Amityville? Non? Alors, on est dans une maison victorienne de Long Island, au 112 Ocean Avenue. Alors, c'est une histoire vraie, en premier abord. Donc, on est en 1974. Et à 3h du matin, donc, un fils d'une famille tue ses parents, ses deux frères et ses deux sœurs d'un tir à la carabine. Et ce fils de fou en fait va indiquer à la police qu'il a entendu des voix et que c'est le diable qui l'a poussé à assassiner ses parents. Mais comme le dit Bruno, il fallait qu'il trouve un motif, il fallait prouver qu'il était un peu fou pour tuer, pour avoir un alibi, pour être un peu excusé, enfin au niveau judiciaire.
Échapper à la peine de mort surtout.
Bref, quelques années après, emménage dans la même maison une famille, la famille Lutz. Donc un père de famille, sa femme, deux enfants, et il se passe des choses bizarres. Systématiquement, le père de famille se réveille à 3h du matin, la même heure, à laquelle a eu lieu les crimes. Le fils a un ami imaginaire. Et puis le 14 janvier 1976, donc quelques mois après leur emménagement, se passe une nuit infernale. Les meubles se mettent à bouger, les portes et fenêtres claquent. Des bruits étranges montent de la cave. Georges Lutz voit sa femme léviter et il se barre.
Ouais, elle est partie. Elle
se barre. il se barre aussitôt.
Elle dit mais il est taré mon mari. Je me casse. Je l'évite.
Donc ça c'est la version officielle.
Oui, c'est
officiellement
ça.
Il y a peut-être arrivé 2-3 trucs, mais après ils ont rencontré un journaliste qui a monté ça de fil en aiguille et en a tiré un roman en 1977, Amityville, la maison du diable. Mm-hmm. Voilà. Moi, je l'avais lu à l'époque, ça m'avait vraiment assez scotché, assez traumatisé, parce qu'ils avaient fait le film qui est arrivé juste après. Donc, déjà, le livre était flippant, mais on avait rajouté des tonnes. Et puis après, il y a eu le film qui a rajouté des tonnes aussi, qui a très, très, très mal vieilli. Hein. C'est l'horreur avec des trucs communs, quoi.
Il n'y avait rien de spécial.
Rien de spécial, mais bon, ça a été un emballement. Et ils ont fait au moins 5-6 films sur Amityville. Et puis, il y a eu aussi un cas. Alors ça, c'est dans le film Conjuring. C'est le cas de la... C'est une maison, là aussi, de Rhode Island, où c'est la maison de la famille Perron. Donc, c'est une famille de 7 personnes, 2 parents et 5 filles. Et dans cette maison, ce qui s'est passé, c'est que depuis la nuit des temps, il y a toujours eu des suicides, des meurtres dans cette maison. Et donc, les époux Warren étaient intervenus justement dans cette maison, avaient visité la maison, comme ils ont visité d'ailleurs Amityville. Et ils ont décelé qu'il y avait une femme qui s'appelle Bathsheba Tyler, qui était née en 1736, et à cette époque, au XVIIIe siècle, elle avait été accusée de satanisme et s'était pendue dans le jardin de la propriété. Voilà. Et puis Bathsheba a pris possession, pendant que les pouvoirs étaient là, a pris possession de la mère de famille. Et ça s'est très mal passé en fait, et donc ils se sont barrés. Les parents ont dit non, restez pas là les Warren, allez-vous-en, c'est traumatisant. Et ça s'est fini comme ça. À chaque fois ils intervenaient pour étudier les cas de démoniaques ou les cas de paranormal. Et Amityville, je reviens à Amityville, Lorraine Warren a même dit que Amityville c'est une maison qui leur a marqué à jamais. C'est vraiment là où elle a eu senti le plus la présence du démon.
Oui, je pense qu'elle devrait consulter un petit peu, mais elle doit être très sympa cette dame.
Ce qui est bien aussi, c'est qu'ils ont fait quand même 4000 enquêtes dans tous les États-Unis, les époux Warren, et puis ils ont reconstitué une pièce dans leur habitation où ils ont emmené tous les objets maléfiques qu'ils ont rapportés à l'issue de leur enquête. Et notamment la fameuse poupée possédée Annabelle. Mmh. Ah. Alors, elle ressemble à rien au film Annabelle 1, 2, 3. C'est une toute petite poupée, voilà, toute mignonne, mais apparemment elle était vraiment possédée. D'ailleurs, Lorraine Warren a toujours évité d'aller voir cette poupée, de la regarder en face, parce qu'apparemment elle serait possédée.
Oh.
Voilà. Alors, elle est morte l'an dernier, Lorraine Warren. Voilà. Et il y a beaucoup de films qui. Voilà, Conjuring, c'est Conjuring, Les Affaires Warren, c'est quasiment une franchise de films qui sortent tous les 2-3 ans. Voilà. Okay. Et c'est tiré d'une histoire vraie. Alors, bon, après, on n'y croit pas.
Eh bien, en tout cas, merci Olivier. Moi, maintenant, je flippe de partout.
De partout.
Alors, on va maintenant retrouver Manu avec sa chronique « Fais-moi peur ».
On va tout avoir un jingle ce soir. Hein. Mmh.
Jingle de d'habitude.
Peut-être.
Alors, peu d'émotions nous définissent autant que ce matériel obstiné et récurrent qui non seulement ne garantit pas notre survie, mais qui agit aussi souvent comme un réducteur d'opportunités, comme un ennemi vorace de nos libertés et de notre développement personnel. Je parle ici de notre peur. Alors, la peur est peut-être l'émotion la plus ancienne qui existe, la plus primaire. Mais c'est en 1872 que Darwin, père de la théorie de l'évolution, supposait que la peur était le résultat d'une adaptation. Elle peut être inconfortable, paralysante, nous le savons. Cependant, l'éliminer complètement serait comme laisser les portes et les fenêtres de notre maison ouvertes, ou comme marcher pieds nus sur un sol piquant ou bouillant, voilà, ou encore caillouteux. Autrement dit, c'est un risque insensé qui affecterait directement notre équilibre et notre subsistance. Nous avons donc besoin d'avoir peur. Mmh. Alors, cette émotion primaire peut être très bénéfique à l'être humain, à condition de garder un certain contrôle sur elle, car Au moment où cette réponse adaptative prend le contrôle et déclenche toute une série de tourmentes chimiques et de changements physiologiques dans notre organisme et celui des autres, vous le verrez plus tard, les choses changent complètement. Alors, en fait, quand on parle de peur, on parle surtout de séquestration de l'amygdale. Eh ouais.
Ah oui, quand même.
Dans le cerveau, la peur est déclenchée par un noyau pair, un par hémisphère, alors je vous rappelle qu'on en a deux, de matière grise en forme d'amande, et pas plus gros qu'une amande d'ailleurs, qui s'active en cas de danger. Un simple mot menaçant comme meurtre, ou une image d'un visage effrayant, ou d'une main coupée, ou d'un rat à longue queue, peut suffire à la stimuler. Nous en avons vu un exemple tout à l'heure avec Sonia.
Qui a hurlé.
Alors, cette fonction de l'amygdale, d'induire la peur, a notamment été étudiée grâce à une patiente, appelée patiente SM, devenue célèbre de...
Ah ben comme ça, ouais.
Voilà. Cette femme, dont justement l'amygdale est inopérante, ne connaît pas la peur. Alors, il est intéressant de savoir que l'amygdale supervise tout ce qui arrive non seulement en nous, mais elle capte aussi tous les événements qui se trouvent à l'extérieur et qui, au moment où elle détecte une possible menace, active une série de connexions pour générer tout un kaléidoscope de réactions complexes. Alors, l'amygdale ne fait pas dans le détail. Elle n'a pas de temps pour ça lorsqu'il s'agit de garantir notre survie. C'est pourquoi elle nous fait réagir face à des stimulations peu logiques ou peu rationnelles, genre les araignées pour Raphaël, voilà, la technologie pour Sonia, oui. Ou bien encore le bon goût pour Bruno.
C'est vrai.
Oui, ah oui, bravo,
tout à fait.
Bravo.
Ah oui, un peu de vengeance quand même.
C'est voilà. Vrai, c'est vrai. Allez.
Alors, l'amygdale a un système d'alarme qui active immédiatement le système nerveux pour qu'il mette en marche une réponse très concrète, c'est-à-dire la fuite. Pour cela, elle prépare tout notre organisme en augmentant notre pression artérielle, en intensifiant le métabolisme cellulaire, en augmentant les niveaux de glucose dans le sang, la coagulation sanguine, voire même en majorant l'activité mentale. On serait beaucoup plus efficace quand on a peur, mais il ne faut pas qu'elle dure trop longtemps. Ainsi, une bonne partie de notre sang se dirige dans les muscles principaux, comme ceux des jambes, pour disposer ainsi de l'énergie suffisante pour fuir si cela est nécessaire.
Prendre les jambes.
Eh ouais, tout est calculé quand même. L'adrénaline parcourt tout notre organisme, provoquant jusqu'à l'arrêt du système immunitaire. Car le cerveau ne considère pas ce travail comme essentiel à ce moment-là. Ah, vous dire que générer la peur pour combattre le Covid, je trouve
c'est une très
mauvaise idée. Voilà. Ce qui est nécessaire alors, c'est de pouvoir fuir, ou dans le cas contraire, de pouvoir nous préparer à l'affrontement. Mais pourquoi ce réflexe? Les chercheurs... excusez-moi. Alors, pourquoi le réflexe de cri? Parce que quand même, je me suis intéressée. La question, ouais, c'est, pourquoi crions-nous lorsque nous avons peur? Comme la peur, le cri a joué un rôle dans l'évolution. Ben oui, tu es un être évolué, Sonia.
Oui.
Alors, il sert aux animaux à alerter leurs semblables ou à appeler de l'aide, et peut même surprendre ou intimider un prédateur.
C'est ça que je voulais faire tout à l'heure.
Ben bien sûr, hein, j'ai bien compris. Alors, mais pourquoi ce réflexe? Alors, les chercheurs ont recueilli tout un éventail de cris sur YouTube, dans des films,
ah oui,
et auprès de 19 crieurs bénévoles, c'est vous dire crieurs que c'est quand bénévoles, même vachement important comme étude. Ils ont ensuite examiné par IRM les images du cerveau de personnes en train d'écouter ces cris. Ils se sont alors aperçus que le cri n'était pas perçu de la même façon qu'un son normal par le cerveau.
Bah, tu m'étonnes.
Ce son très particulier parvient au cerveau en passant par le chemin de l'amygdale, la fameuse. Ce petit noyau situé en avant de l'hippocampe, pas le petit poisson, hein, mais voilà, impliqué notamment dans la peur et l'anxiété. Cela signifie que les cris ne sont pas seulement considérés comme des sons, mais aussi comme des déclencheurs d'une sensibilisation accrue. Voilà. Alors, exemple, parce qu'il faut quand même illustrer tout ça.
Alors, Céline Dion.
Contrainte de garder ma nièce, je me retrouve à écouter, délivrer, libérer,
ah bah oui,
dans la Reine des Neiges.
Pas loin.
Voilà. Mon Dieu. Alors, irrémédiablement, je me retrouve à crier, ce qui génère, je ne saurais dire comment, un mouvement de peur, voilà, qui pousse ma nièce à interrompre toute tentative de visionnage de son dessin animé préféré.
Ah ouais, cool, voilà, bien.
Voilà, crier ne sert pas seulement à alerter sur un danger, mais aussi à provoquer la peur chez l'autre et à le sensibiliser pour qu'il réponde à cette alerte. J'ajouterai pour finir que plus le cri est violent et rugueux, plus la sensation de peur ressentie par celui qui l'entend est importante. Donc excuse-moi Raphaël, mais quand tu vois une araignée et que tu cries...
Elle s'en fout.
Oui, voilà. Il faudrait que tu cries de manière plus efficace. Voilà.
Ok, bah, je vais étudier les questions. Dessus.
De manière plus rugueuse, voilà, ce serait...
Et plus viril surtout, mais...
voilà.
Oh.
Alors, ça à vos casse. Cris, mes petits loulous. Joyeux Halloween. À tous.
Merci, Manu. Alors, on retrouve maintenant celui avec qui nous avons commencé l'émission. Voici Bruno et sa rubrique « C'était mieux après ».
Qu'est-ce que c'est que ça?
Super. Bon, je vais faire un peu de shopping. Ouais, un peu de shopping. Comme c'est Halloween, quelques petits gadgets.
Ouais.
Allez, on commence par un masque, c'est tendance. Il est taché de sang et il montre une bouche de vampire. Voilà, c'est 3 euros le masque. Ouais. Ça vous plaît?
Ça protège.
Alors, un autre masque, ça prend toute la face. Il est en plastique, mais il a des LED qui font des grosses croix sur les yeux et qui font des coutures sur la bouche.
Ouais, c'est bien ça.
C'est bien ça.
Ouais,
bon, 5 euros. Ça va, c'est pas cher.
Sympa.
J'ai un collier goutte de sang. Vous le posez autour de vous et on croit qu'on vous a coupé la tête, mais c'est, en ce moment, c'est
non,
pas.
Non, c'est de mauvais goût.
Non. 3 euros la faute de goût, ouais. Un costume d'araignée pour chien. Alors vous lui mettez autour de la taille et ça lui fait 8 pattes velues.
Moi je vais l'offrir à Raphaël.
Voilà, c'est très
c'est
moche.
Ça, j'ai pas de chien.
Ouais, j'ai douce que le chien passe une bonne soirée, mais bon, 15 euros. Voilà.
Oh, non,
allez, un peu plus technique, une mygale télécommandée.
Ah voilà. Oui, très bien.
Ça, c'est un enfer.
Voilà, donc 13 euros. Alors j'ai un drone fantôme. C'est un petit personnage en tissu blanc léger.
Ah, c'est rigolo, ça.
Avec 3 petites hélices et comme ça il vogue dans le jardin.
C'est
voilà.
Pas
et
pas
sa tête, elle s'allume. Voilà. 60 euros pour entendre Raphaël hurler. J'ai des collants tachés de sang. Alors je ferai aucune blague là-dessus, mais donc c'est 1 euro le collant, voilà, pourquoi pas.
De très mauvais goût aussi.
C'est ça. Et si vous avez un assistant vocal, n'hésitez pas à lui demander de faire des bruits effrayants, que ce soit Amazon Echo ou Google Home. Les programmateurs ont tout prévu et vous allez avoir des bruits de frayeur. Voilà, bon, chez moi, ça a lancé le dernier album de Danny Briand et j'avoue que c'est super flippant.
Merci Bruno, merci à tous de nous avoir suivis. En tout cas, on se retrouve dans 15 jours avec de nouvelles chroniques en compagnie de nouveaux invités. N'oubliez pas, retrouvez à tout moment l'émission du jour en podcast et toutes les infos sur nos comptes Insta, Twitter et Facebook. D'ici là, prenez soin de vous, bonne soirée et à bientôt,
bonne
les
soirée.
Amis.
Tremblez.
It's time to play for